Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée.
À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui ne vont pas croire au malheur. Elles écoutent la radio, elles boivent du thé, au degré zéro de la liberté. Elles ne savent pas que la bourgeoisie n'a jamais hésité même à tuer ses fils.
C'est salaud ce soir, bien sûr, de Pasolini dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de crimes, de bonheur, de pulsions, d'imaginaire, de représentation, de pipeau, de morale et même d'amour à vendre. Avec Laurence Descartes qui co-signe l'exposition Sade attaquer le soleil au musée d'Orsay à Paris, ou comment montrer l'irreprésentable de la pensée de Sade, un théâtre de la cruauté, Manou Farine.
Au programme, une histoire souterraine qui, partant de la philosophie dans le boudoir, aboutirait aux Demoiselles d'Avignon, ou comment finalement mettre la peinture dans le boudoir.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi, toujours de Manou Farine. Ce soir, ce sera le libraire de la librairie érotique parisienne, la Musardine, Frédéric Lévesque. 19h35, le plateau sera moral, avec Ruen Augien qui signe « Philosopher ou faire l'amour », un essai contre les clichés de l'amour rythmé par des chansons. Alors on commence avec « L'amour, c'est du pipeau » pour finir par une défense de « Love for Sale », Manou Farine.
Tentative de portrait logique et moral de l'amour pour mieux dynamiter l'éloge de l'amour tel que les philosophes l'ont chanté.
Et d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui s'ouvre sur le son du jour. And now, baby, get into my big black car. Just show you what my politics are. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est donc votre son du jour. Il date.
Il date un peu. C'est Jack Bruce, bassiste et bluesman que nous entendons à l'instant. Il s'est éteint ce week-end à l'âge de 74 ans. Il fut le bassiste et le chanteur du groupe britannique Cream, qui comptait également Eric Clapton et Ginger Baker à la batterie. Ils ont vendu 35 millions d'albums, ces Britanniques, en à peine 2 ans. Et Jack Bruce en particulier était célèbre pour leurs impros sur scène qui pouvaient durer plus d'une demi-heure. Il est notamment l'auteur de Feel Free, White Room ou Sunshine of Your Love, qui sont parmi les riffs de guitare les plus joués au monde aujourd'hui.
Tout de suite, on passe au dossier du jour. La vidéo n'a cessé de circuler depuis ce week-end. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, était l'invitée dimanche de Maïté Nabiraben dans le supplément de Canal+. Et elle a buté face à l'une des questions de la journaliste, une question pourtant simple.
Oui, alors à ce moment-là, Fleur Pellerin, déjà, il faut le dire, vient de raconter qu'elle a déjeuné avec Patrick Modiano, qui a, comme on le sait, reçu le prix Nobel de littérature. Et voici qu'on lui demande quel livre de l'auteur elle préfère écouter l'échange.
Votre livre préféré de Modiano?
C'est pas sympa.
Le dernier.
Non, j'avoue, hein, sans aucun problème, que je n'ai pas du tout le temps de lire depuis 2 ans.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai. Je lisais pourtant beaucoup. Oui, je lis beaucoup de notes, je lis beaucoup de textes de loi, je lis beaucoup de les nouvelles, les dépêches AFP, mais je lis très peu.
Ah oui, mais il faut vous ménager un moment pour ça, c'est quand même très important. On a un prix Nobel de littérature, Madame la Ministre.
Oui, je sais.
En avouant sans aucun problème qu'elle n'avait pas lu le livre, Fleur Pellerin a créé le tollé.
Oui, alors justement, certains la moquent un petit peu. Il y a eu des articles dans le Huffington Post, dans l'Express. D'autres lui pardonnent, à l'image de Bernard Pivot, qui prend sa défense face à l'AFP aujourd'hui, en indiquant qu'elle préfère peut-être les essais, finalement, qu'il aurait aimé qu'elle ait lu Modiano, mais que cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente. Alors justement, Jean-Michel Frodon, critique de cinéma, notamment pour Le Monde, écrivain, enseignant, historien, qui a dirigé les Cahiers du cinéma, a publié ce lundi une tribune sur le site Slate sur le sujet pour dire en quoi justement le fait qu'elle revendique de ne pas avoir lu Modiano est pour lui un problème.
Pour moi, la question n'est pas qu'elle ait lu ou pas Modiano, c'est qu'elle le revendique. Je crois comprendre que ça n'est pas un hasard ou une maladresse. C'est l'affirmation que le poste qu'elle occupe est un poste technique où il convient que se trouve quelqu'un qui a des capacités de technicienne de l'action publique, notamment sur des leviers économiques, et que c'est ça qu'elle revendique d'être et rien d'autre, et que c'est l'image qu'elle veut donner. Pour moi, s'il y a un problème, il est là. Alors, l'essentiel, c'est plus la construction d'une posture ou d'une position comme ministre de la Culture et de la Communication aujourd'hui que le problème Modiano en tant que tel.
Au-delà du cas Modiano, Jean-Michel Frodon reprend dans son article Tribune toute une série de discours de la ministre, hein, Fleur Pellerin, et il démontre qu'un changement de vision du poste de ministre de la Culture est à l'œuvre actuellement.
Oui, d'ailleurs, il relève tout d'abord eh bien, qu'elle se défend en expliquant qu'elle lit des notes, des lois, des choses sérieuses finalement, des choses de technicienne. Et puis il s'intéresse très en particulier à un discours qu'elle a donné lors des 24e rencontres cinématographiques de Dijon. Et il explique comment, par le vocabulaire qu'elle est en train de qu'elle développe, elle est vraiment en train de construire un autre modèle du ministre de la Culture qui n'a plus rien à voir avec celui de Malraux.
Fleur Pellerin ne parle jamais d'œuvre, elle parle de contenu. Ça veut dire qu'elle unifie et qu'elle fait disparaître la singularité des objets qui sont effectivement concernés. Puisque des contenus, c'est tout ce qu'on peut faire circuler dans des tuyaux. Et pour moi, il y a un glissement de vocabulaire tout à fait problématique là. Elle dit les nouveaux usages des consommateurs. Et je regrette qu'elle définisse les gens qui ont rapport avec des œuvres comme des consommateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en sont pas. Mais les réduire à cette seule dimension de consommateurs, c'est éliminer bien d'autres rapports des personnes avec des œuvres. Cette approche, il faut la prendre au sérieux, pas faire des blagues ou des commentaires comme ça un peu superficiels pour être contre, parce qu'on a envie d'être contre, pour dire il se construit une conception de l'action publique par rapport à la culture qui, selon moi, est en contradiction ouverte avec la raison même d'être ministère de la Culture.
Voilà, alors depuis cet incident, on a plusieurs amis de Fleur Pellerin qui, par des sources anonymes, indiquent dans les journaux bien qu'elle est très cultivée, qu'elle aime beaucoup lire et qu'elle souffre particulièrement de ce manque de lecture en ce moment.
Pas de réaction de la part de nos invités. Tout de suite, les brèves.
Et l'on ouvre avec le bilan de la FIAC, Foire internationale d'art contemporain de Paris. Elle a attiré plus de 74 500 visiteurs. C'est près de 2% de plus que l'année dernière. La soirée du vernissage en particulier a été très courue. Le communiqué indique que pour l'immense majorité des galeries, il s'agit de leur meilleure FIAC. Lancement aussi réussi pour Officiel, le off de la FIAC à la Cité de la Mode et du Design, avec un niveau de visiteurs assez satisfaisant et des ventes qui, pour certaines galeries, s'élève jusqu'à 40 000 ou 50 000 euros.
Et la FIAC, c'est aussi deux prix. Le premier, Marcel Duchamp, a été attribué à Julien Prévieux.
Représenté par la galerie Jousse Entreprises, c'est l'auteur de la lettre de non-motivation. Sa nouvelle réalisation, What Shall We Do Next, mêle vidéo et performance. Né à Grenoble, il travaille depuis plusieurs années sur ce qu'on peut appeler les formes comportementales réglées du quotidien, expliquait son reporter devant le jury.
Camille Blatrix remporte quant à lui le 16e prix de la Fondation Ricard.
Représenté lui par la galerie Ballet Sertling, il est l'artiste... Il est récompensé pour deux œuvres, Je veux passer le reste de ma vie avec toi et Still Elle, sculpture intime en aluminium, bois et verre, à découvrir jusqu'au 31 octobre dans le cadre de l'exposition L'époque, les humeurs, les valeurs et l'attention à la Fondation Ricard à Paris.
Disparition du photographe américain David Armstrong, 80 ans.
Il fut l'un des membres à la fin des années 70 du groupe des 5 de Boston ou de la Boston School avec notamment Nan Golding, Mark Mirosri et Jack Pearson. Son homosexualité revendiquée a marqué son travail sur l'intimité des corps. Il s'est ensuite consacré au paysage et a travaillé jusqu'à la fin de sa vie pour des magazines comme Vogue ou Wonderland.
Et la dernière.
Alors c'est une histoire de costumes, d'engagement politique et de mode. C'est l'histoire d'un courageux petit tailleur paraguayen qui clame haut et fort son dégoût de la corruption. Le grand tailleur Robert, c'est son nom, est un vénérable créateur de costumes trois pièces dans la ville d'Asunción au Paraguay. Depuis trois générations, il possède 9 vénérables boutiques dans
moutiques,
la ville et dans le pays. C'est des moutiques. Et il a lancé en ce mois d'octobre un petit costume sans aucune poche, ni pochette, ni sur la veste, ni sur le pantalon. Costume qu'il a nommé Ibanez, le costume Ibanez, du nom d'un député, José Ibanez, du parti du Colorado, le parti majoritaire de droite, qui, comme bon nombre de ses confrères, fait l'objet en ce moment d'une enquête pour corruption. Il rémunérait ses quelques 17 employés de maison grâce aux deniers de l'État. Alors voilà, le grand tailleur a lancé ce modèle pour dire non à la corruption et ça marche très 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 bien puisqu'il est déjà en rupture de stock. Ça se vend comme des petits pains, mais il indique qu'il a quand même perdu une bonne partie de ses clients fonctionnaires. Il envisage néanmoins de lancer un tailleur féminin, baptisé là Madame Ibanez, en hommage à l'épouse du fameux député qui, elle, se faisait coiffer et habiller, elle aussi, aux frais de l'État.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Laurence Descartes et Ruben Ogier ? Non, du côté de Laurence Descartes. Ruben Ogier, je vous ai vu prendre des notes.
Tristesse pour le bassiste de Cream, vous me permettrez. C'est un magnifique groupe qu'il faut réécouter. Voilà, des grands groupes de la fin des années 60.
Non, de votre côté, Ruben Ogier,
à quoi pouvaient ressembler ces costumes et si je pourrais les porter. Donc, ce n'était pas des pensées très élevées.
Voilà. Alors, on commence tout de suite.
C'était léger.
Le rendez-vous.
Ces 120 journées de Sodome suivent à la trace celle du marquis de Sade, écrivain dont la folie, notoire au XVIIIe siècle, passe aujourd'hui pour le signe de la plus éclatante santé mentale. Ainsi va le progrès. Disons-le tout net, rarement un film nous a donné autant l'envie de vomir. Qu'on me pardonne, mais ce ne sont que festins malodorants servis dans des pots de chambre, orgies de langues coupées, dieux crevés, flagellation de fillettes réduites à l'état de chienne, mendiant à quatre pattes une infecte bouillie qui se révélera par la suite truffée de clous. On imagine ce que cela peut donner après un certain nombre de mastications.
C'est très bien résumé et surtout ça donnait envie. Plateau Divin Marquis avec vous, Laurence Descartes, conservatrice du patrimoine, directrice du musée de l'Orangerie et co-commissaire avec Annie Lebrun de l'exposition Sade attaquer le soleil qui se tient actuellement au musée d'Orsay à Paris. On vient d'ouvrir, vous l'avez reconnu peut-être sur la voix du journaliste François Chalet à propos du film Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pasolini à sa sortie en 1976. Et c'est aussi l'ouverture que vous avez choisie dans l'exposition à Orsay puisqu'on commence par traverser une série de projections d'extraits de films. Salaud, Les yeux sans visage de Franju, en passant par Le journal d'une femme de chambre de Louise Buñuel ou Peeping Tom de Michael Powell. Qu'est-ce qui a motivé cette entrée en matière alors même que l'exposition va plutôt travailler le 19e siècle ?
Mais justement, une forme de sas, de transition qui amène le visiteur contemporain qui a forcément en tête un certain nombre d'images. Notre culture est faite d'images et notamment cinématographiques. C'est quand même un fond maintenant commun de choses qui nous ont frappés, fascinés, dégoûtés, peu importe. Et là, on est au cœur de toute manière de la question. Donc l'idée, c'était d'amener en fait le visiteur, de créer un choc dès le départ au fond et de l'amener comme ça dans l'univers sadien et non pas sadique de l'exposition.
À propos de cinéma, le musée d'Orsay va programmer un cycle de 14 films consacrés à Sade, avec des adaptations littérales ou des œuvres qualifiées de sadiennes, et non pas de sadiques, de Van Schroem, Buñuel, Mario Bava, Oshima. Qu'est-ce que serait un film sadien ?
Après ça, c'est une excellente question. Donc nous, on propose quelques pistes dans le choix des films, avec Buñuel très à l'honneur, qui est certainement un très grand cinéaste sadien. Mais je pense qu'on aurait pu élargir le cercle, pourquoi pas, et en clin d'œil, et évidemment au président d'Orsay, pourquoi pas Hitchcock, qui aurait pu aussi, par certains aspects, être présent.
Président d'Orsay, Guy Cojual.
Guy Cojual, qui est un grand cinéphile, qui a tenu à cette ouverture et qui a participé au choix des films. En fait, on s'est aperçu qu'on pouvait tirer un fil sans fin, avec cette question du cinéma sadien. C'est une question aussi éminemment subjective, comme d'ailleurs l'ensemble de l'exposition, qui est une forme de proposition sous la houlette d'Annie Lebrun, comme vous le savez, donc grande spécialiste de Sade, même si elle déteste ce qualificatif. C'est néanmoins elle qui connaît bien Sade dans l'affaire. Et moi, je me suis contenté de l'accompagner pour un certain nombre, pour construire l'exposition, pour le choix des œuvres, leur articulation entre elles, et voilà.
Alors à propos de cinéma, on vous a demandé, Laurence Descartes, un son.
Oui.
Vous en avez choisi deux. On n'a pas voulu choisir. Montage.
Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut, Alphonse, je compte sur toi.
Identification de ces deux sons, Laurence Descartes.
Alors, bien sûr, La nuit américaine de Truffaut. Truffaut comme... peut-être moins comme cinéaste aujourd'hui, c'est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé, mais peut-être plus comme passeur. C'est la figure de passeur de la cinéphilie, de l'amour lyrique et romanesque du cinéma qu'on sent bien dans cet extrait. Le souvenir de lecture passionnée de ses entretiens avec Hitchcock, qui ont certainement nourri mon goût de l'histoire de l'art autant que des lectures consacrées spécifiquement à la peinture ou aux arts plastiques en général. Et pour moi, ce principe d'association est essentiel et c'est exactement ce que l'on retrouve chez David Bowie, qui pour moi est une grande figure de passeur et de mélangeur, de transgression permanente des limites, et je trouve avec une magnifique réinvention récente vers le jazz.
Renaudien.
Parmi les films que vous avez choisis, je crois qu'il y a La vie criminelle d'Archibald de la Crosse de Buñuel, qui représente pour moi l'esprit de l'œuvre du Marquis de Sade. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire, c'est un Archibald de la Crosse qui s'accuse de crimes qu'il n'a pas commis, mais qu'il aurait vraiment aimé commettre. Étant donné qu'il y a toutes sortes de quiproquos, finalement, toutes ces personnes sont tuées. Et il est convoqué à la police. Et il raconte donc toute cette histoire en prenant ça comme si c'est lui qui les avait commis. Et le commissaire lui répond, écoutez, rentrez chez vous, on ne peut pas accuser quelqu'un ou l'incriminer simplement pour ses pensées et pour ses désirs, même les plus affreux, les désirs de meurtre, qu'il n'en a pas eu.
Oui, tout à fait. Non, c'est sans doute à des films, je suis absolument d'accord avec vous, qui collent le mieux à l'univers, à la question sadienne. Au fond, c'est un des films de la période mexicaine de Buñuel, qui est peut-être pas le plus connu aujourd'hui du public français, mais qui, effectivement, pose la question du désir, de la réalisation de ce désir, des obstacles, des limites, et de la question de l'imaginaire aussi. Donc on est vraiment, à mon avis, au cœur de l'exposition. Et s'il y a un film qu'on devrait retenir, c'est sans doute celui-là.
Manu Farine.
Alors justement, le défi de ça, de cinéma, c'est bien de filmer l'irreprésentable et réduire à des images une pensée qui a été fondée sur les pouvoirs infinis de l'imaginaire. C'est vraiment ce qui est au cœur de l'exposition Attaquer le soleil, avec comme hypothèse que Sade aurait, en secret ou de façon souterraine, puisqu'il était censuré, interdit à l'époque, irrigué véritablement la pensée et la sensibilité du 19e siècle. Sur quel premier corpus d'œuvre, voire sur quelle œuvre cette hypothèse-là s'est-elle d'abord construite, Laurence Descartes ?
Elle s'est construite, j'allais dire, à plusieurs niveaux, d'un certain point de vue. Alors, c'est un travail, un dialogue avec Annie Lebrun, bien entendu, qui a longuement médité cette question. Elle s'est construite avec les grands jalons de la modernité, c'est-à-dire que vous retrouvez dans l'exposition, à l'évidence, un certain nombre de grands noms, de grands artistes, qui sont les grands briseurs de codes. Alors, de Goya à Picasso, pour faire simple, en passant par Ingres, par Cézanne, par exemple.
De la Croix,
ou von Stuck pour aller un petit peu du côté germanique, même si on reste assez franco-français parce que c'est une question qui a une vraie pertinence quand même dans la culture visuelle française, et on peut s'interroger sur cette question, mais c'est une réalité en tout cas de la peinture pour le 19e siècle. Donc si vous voulez, il y a ce fil conducteur qui est presque une idée de filiation d'artiste en artiste, et au fond d'Ingres à Picasso, on sait qu'il y a une filiation directe, et donc c'est un peu ce fil-là qu'on a essayé de reconstruire. Et puis en même temps, on accompagne le choix de ses œuvres et de ses grands noms, si je puis dire, de l'art moderne, d'une foule d'autres, d'un autre type d'images, anonymes, pléthoriques, y compris dans l'exposition, de gravures, de photographies, pour montrer combien, bien entendu, cette culture visuelle clandestine, censurée, transgressive, n'a cessé en fait d'être présente, d'envahir par des techniques d'ailleurs de reproduction qui se développent au 19e siècle, je pense à la lithographie, à la photographie, d'envahir en fait la culture visuelle de ces artistes et d'accompagner en quelque sorte ces transgressions, ces conquêtes sur la représentation du corps, du désir, cette libération d'un certain point de vue des artistes. Elle a été accompagnée par ce corpus gigantesque, anonyme, qui est le lieu de la clandestinité et le lieu du désir et du plaisir.
Alors l'exposition s'articule en 8 chapitres avec des tableaux repères. Par exemple, il y a un tableau qui apparaît déterminant dans l'exposition, dans son déroulement, ces scènes de guerre au Moyen-Âge d'Edgar Degas, présenté comme le tableau symbole de cette exposition. C'est dans le catalogue qui est signé par Annie Lebrun. Peut-être d'abord une rapide description de cette toile et de ses enjeux au cœur de cette exposition.
Oui, alors on est au tout début de la carrière de Degas, on est au tournant des années 1860, et Degas se cherche un peu et s'invente comme peintre d'histoire. Veut en faire son entrée sur la scène artistique par la peinture d'histoire, qui reste le grand genre de référence, celui qui rassemble toutes les passions et donc est celui de la prouesse, d'un certain point de l'expression pour l'artiste. Et il peint ce tableau assez invraisemblable, difficile à décrypter, puisqu'on l'a parfois relié aux scènes de massacre liées à la guerre de sécession aux États-Unis, donc une espèce de transcription médiévisante de ces massacres. Le fait est qu'on voit... Ce sont des femmes assassinées. Et on voit surtout sur la partie gauche du tableau des femmes effectivement assassinées, mais littéralement torturées, avec des corps meurtris, extrêmement maltraités, et déjà un regard, j'allais dire, sadien, au fond, de Degas sur le corps de la femme, avec une liberté de ton, d'expression, qui ose précisément d'une représentation tout à fait hors norme, hors code de l'époque, qui n'est pas séduisante, qui n'aguiche pas, mais qui montre la violence et l'éventuel plaisir aussi qu'il y a à regarder cette violence. Donc là, on est déjà dans des enjeux, évidemment, qui sont au cœur de l'exposition.
Manu.
Justement, parce qu'on peut y opposer qu'on n'a pas attendu le 19e siècle que pour que la peinture s'empare justement de scènes de massacre, de Judith, de femmes vengeresses, de Médée, d'enlèvement, de décapitation, d'orgie d'extase, de souffrance. Tout ça, ça avait déjà été pris en charge par le passé. Qu'est-ce que le 19e siècle en fait pour que vous lui fassiez rencontrer Sade?
Eh bien, précisément, en le mettant en parallèle avec Sade, qu'est-ce que fait Sade? Sade dit bien que cette violence, il ne l'a pas inventée, qu'elle est au cœur de l'homme et qu'elle a existé. Et que c'est bien pour ça qu'il y a d'ailleurs un certain nombre de peintures plus anciennes dans l'exposition, des scènes de martyrs, comme vous le disiez, ou des grandes scènes bibliques très, très violentes. Cette violence, elle est là, mais qu'est-ce qu'a fait Sade? Il l'a dépouillée de tout prétexte religieux, de tout prétexte politique, et la regarde pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui définit aux yeux de Sade la nature humaine. La cruauté est au cœur de l'homme, la violence est au cœur de l'expression de son désir. Donc, il la dépouille complètement. C'est exactement ce qui va se jouer dans ce que nous appelons, ce qu'on a appelé pendant très longtemps la modernité. C'est précisément que les artistes vont dépouiller de tout prétexte historique, mythologique, religieux, la représentation notamment des corps et de la violence, pour les regarder pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un objet de représentation pour l'artiste, de choix personnel, de choix singulier, avec un point de vue, une subjectivité, un désir qui s'exprime, et c'est ce qu'on voit dans l'exposition, parfois dans une extrême violence, effectivement. Donc, c'est cette concomitance, en quelque sorte, de la trajectoire de la pensée de Sade et de cette libération formelle, en quelque sorte, qui se met en place à partir du milieu du 19e siècle, exactement au moment où, d'ailleurs, la période que prend en charge le musée d'Orsay officiellement, cette invention de la modernité qui oublie tous les vieux prétextes, toutes les vieilles recettes de l'école académique. On oublie tout ça et on regarde les choses en face avec une franchise d'expression qui est complètement nouvelle.
Alors, on va revenir justement sur cette franchise d'expression. Tout à l'heure, on parlait du premier Degas avec donc les scènes de massacre. Il y a aussi les premiers Cézanne.
Oui.
Et c'est assez intéressant parce qu'on a l'enlèvement en une toile de 1867, une moderne Olympia entre 1873 et 1874. C'est une période moins connue, hein, le premier Degas. En quoi cette présence intrigante de Cézanne fin 19e était-elle importante pour vous?
Parce que précisément, la première période de Cézanne est une période d'expression extrêmement violente, presque pulsionnelle dans la peinture, extraordinairement sexualisée.
Matiériste aussi.
Oui, matiériste, où Cézanne est sous la grande influence probablement de Courbet, de ce traitement très en matière, très en épaisseur hein, de la matière picturale sur la toile. Et où là, il s'autorise des sujets effectivement extrêmement étonnants. La femme étranglée, c'est quand même un tableau... Et incroyable, enfin, qui est dans les collections d'Orsay, qui est d'une immense violence dans son thème même, qui ne choisit d'ailleurs aucun prétexte historique, comme l'enlèvement, le tableau de Cambridge auquel vous faisiez allusion. Il n'y a pas de prétexte mythologique, il n'y a pas de scène, en fait, il n'y a pas de narration. Il y a simplement ce corps de l'homme et de la femme presque en fusion, dans une espèce de tension, de violence au cœur de la toile. C'est ça le sujet. C'est précisément cette tension représentée au cœur de la toile. Et Cézanne n'a pas besoin d'autre chose. C'est ça le sujet et c'est ça le tableau. Donc, c'est un moment très intéressant de la construction de cet artiste qui ensuite va explorer et va porter son absolu de peintre vers autre chose. Mais dans ces années 60-70, c'est un artiste éminemment sadien.
Bruno Gien, est-ce que vous avez des questions sur cette exposition?
C'est la place des textes.
Oui.
Si je ne sais pas, évidemment, le contraste entre l'écriture, les textes, et puis l'aspect visuel. Comment avez-vous conçu le...
Alors ça, c'était une chose à laquelle Annie Lebrun tenait énormément. C'est-à-dire qu'on ponctue cette exposition de textes, non pas pour justifier littéralement la présence des œuvres, on n'a pas besoin de justifier la présence de Cézanne, je pense que ça va de soi, mais simplement pour éclairer effectivement le visiteur. Alors ce ne sont pas d'ailleurs que des citations de Sade, il y a aussi d'autres auteurs qui lui répondent, en quelque sorte, du 19e et aussi du 20e siècle. Et je pense que c'est important parce qu'on est quand même dans un univers qui part de la littérature fondamentalement et que ce rapport et cette présence du texte pour nous elle était fondamentale, même si c'est bien sûr ça apporte une densité supplémentaire à une exposition qui est par ailleurs assez dense en général.
Parlons de littérature, Manu Farine.
Mais alors vous l'avez dit, hein, redit, l'exposition s'appuie sur la lecture, l'analyse de Annie Lebrun. Je rappelle donc qu'elle avait notamment signé la préface de la première édition complète de Sade par Pauvert en 77. Oui. Qu'elle est l'auteur notamment du fameux essais, soudain un bloc d'abîme, Sade. Vous, Laurence Descartes, quel est votre rapport ou quel était votre rapport à Sade avant de commencer à travailler avec Annie Lebrun? C'est une question peut-être à la fille de Jean Descartes et à la petite fille de Guy Descartes. Oui. Quelle place pour Sade dans la bibliothèque familiale?
La place dans la bibliothèque familiale, je n'y vois pas de place directe. Moi, j'ai découvert Sade comme tout le monde. Je pense à un moment à l'adolescence, etc., dans des lectures plus ouvertes et plus transgressives. Pour tout dire, Sade, je l'ai lu comme tout le monde. Je ne l'ai pas lu en entier d'ailleurs à l'époque. Ce n'est pas un auteur vers lequel je suis revenu par la suite pour d'autres raisons, parce que mon champ d'investigation était plus tourné vers le 19e et le début du 20e siècle. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, dans l'association avec Annie, qui a été décidée il y a un an autour de ce projet, c'est d'explorer précisément ces questions des limites aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'immontrable ? Qu'est-ce que c'est que les limites d'une exposition aussi dans un musée relativement classique comme le musée d'Orsay? Comment peut-on explorer ces questions de l'indicible, de l'immontrable dans une exposition? Et comment précisément on peut faire de cet enjeu qui est d'abord une question de sensibilité, d'histoire de la sensibilité, une question d'histoire de l'art? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où la relecture de Sade dans ce cadre-là est devenue pour moi extrêmement intéressante et pertinente, parce que précisément moi j'y ai à ce moment-là apporté mon bagage d'historienne de l'art et de quelqu'un qui connaît un petit peu la peinture du 19e siècle et qui pouvait en dialogue avec Annie Lebrun construire un parcours je l'espère cohérent et pertinent.
Mais justement, quels ont pu être les points de débat avec Annie Lebrun à propos de ça, et davantage d'ailleurs à propos d'art et d'histoire de l'art?
D'abord, on s'est très bien entendu, ça c'est peut-être très embêtant, mais ça s'est très très bien passé. Les points de débat, c'était plutôt de trouver des bons équilibres, si vous voulez, c'est-à-dire d'équilibrer entre des œuvres très fortes, parce que je pense que le propos d'Annie est un propos exigeant, c'est une lecture qui lui est propre, et qui ne souffre pas la médiocrité. Donc moi, mon angoisse de commissaire pendant quelques mois, ça a été de mettre en correspondance avec le discours d'Annie des œuvres extrêmement fortes, une sorte de série de chefs-d'œuvre. Hein. Il y a des œuvres très importantes dans l'exposition, parce que je pense qu'il fallait être à ce niveau-là. Il fallait ramener aussi ces œuvres plus populaires, plus largement diffusées. C'était très important, mais on ne pouvait pas rester uniquement dans une exposition qui aurait été purement graphique, notamment, et photographique. Il fallait que la peinture et la sculpture, qui est très présente par le biais de Rodin aussi, il y a toute une relecture de Rodin qui est un peu une des petites surprises de l'exposition, puisqu'on l'attendait peut-être pas forcément sur ce registre-là, et qui me semble fonctionner assez. Et pour moi, c'était que l'exposition, d'un certain point de vue, soit pertinente au musée d'Orsay. C'était évidemment un des enjeux principaux.
Alors, c'est très étrange parce qu'il y a un grand absent. Or, c'est vous qui avez piloté l'entrée de l'Origine du monde de Gustave Courbet dans les collections du musée d'Orsay en 1996. Et la toile aurait certainement eu sa place, sachant qu'on y trouve plutôt le dessin de Masson, c'est-à-dire qu'il le recouvrait dans le cabinet de Lacan. Quelle raison l'Origine du monde n'y est pas et qu'on a préféré mettre le panneau, sachant que Masson a travaillé par ailleurs sur l'illustration de la Justine de Sade?
Oui. Non, alors, il y a une raison très pratique, c'est que le tableau est actuellement prêté à la Fondation Beyeler à Bâle et que cet engagement a été tenu depuis longtemps et que le musée d'Orsay tient ses engagements. Mais plus sérieusement, on s'est tout de suite interrogé avec Annie sur l'absence de l'Origine du monde qu'il a fallu prendre, j'allais dire, en compte dès le départ. Et au fond, je pense que ce n'est pas si gênant que ça, parce que je pense que le panneau-masque de Masson, d'un certain point de vue, est plus dans le sujet, puisqu'il est
précisément... Pour quelle
raison ? Parce que précisément, il joue de la question de l'immontrable et d'un mélange de registres, en plus dans la représentation du corps de la femme associé au paysage, à la nature chez Masson, qui correspondait parfaitement à un des points de vue d'Annie sur cette vision assez lyrique de la fin de l'exposition, cet infini du désir, ce désir d'infini. On est en plein dans cette question. Et au fond, Masson est un artiste qui est très présent dans l'exposition. Et donc, je pense que, si vous voulez, regretter un Courbet, je regrette plus une Grotte de la Loue, par exemple, qui aurait été très intéressante dans cette section et qui, pour les mêmes raisons que l'Origine du monde, était un prêt très difficile à avoir. Parce que je pense que là, on touchait à quelque chose de plus juste, plutôt que d'être dans l'expression littérale, j'allais dire, de la transgression de la représentation, qui est l'Origine du monde. Voilà. Mais bon.
Ruben Logien ?
Oui, vous présentez aussi des œuvres photographiques du XXe siècle, plutôt, où le rapport des surréalistes à Sade, c'est un aspect sur lequel j'ai qui m'a beaucoup intéressé, parce que pour moi, l'écriture de Sade a un caractère comique qui n'est peut-être pas suffisamment rendu par ses visions tragiques et provocateurs. Et à vrai dire, je sais que je ne suis suis pas un grand spécialiste, mais que au fond, je n'adhère pas à une interprétation de Sade qui serait simplement celle d'une nature humaine dont le fond serait féroce, horrible. Je pense à lui peut-être même assez indifférent, mais c'est un inventeur de formes littéraires nouvelles, comme la répétition, donc peut-être plus en avant, enfin, je ne dis pas que c'est un anticipateur de Philip Glass, mais il y a quelque chose que le sexe permet, c'est-à-dire répéter, quelque chose qu'on a vu apparaître beaucoup plus tard dans les œuvres.
D'ailleurs, il y a comme une des citations de l'exposition, c'est « L'amour est une chose sans importance » puisqu'on peut
la refaire
à l'infini. mais cette question du nombre, de la répétition, de l'excès et de la figure éventuellement comique qui s'y attend, telle est évidemment présente aussi dans l'exposition. Il y a toute une section justement de ce débordement de la représentation, du nombre, enfin, qui est une chose, une figure qui est récurrente chez Sade et qui est aussi, verse aussi du côté de l'humour très, très clairement. Alors, c'est peut-être pas la lecture principale que le public retiendra, mais je partage complètement votre avis et on a aussi beaucoup ri en préparant cette exposition, si je peux me permettre de le dire.
Mais une dernière question.
Est-ce qu'il faut tenir compte du fait que ce soit deux femmes qui signent cette exposition ou c'est parfaitement anecdotique, hein?
C'est une vraie question et je ne sais pas y répondre parce qu'évidemment quand on est dans le projet c'est plus difficile. C'est une exposition faite par beaucoup de femmes en fait. Il y a une muséographe, Adeline Caron, qui a conçu la muséographie de l'exposition. Donc vous voyez, c'est une équipe très féminine. C'est assez intéressant, signe des temps, je ne sais pas. Enfin en tout cas, je ne sais pas, voilà, c'est le hasard des rencontres aussi dans ce cas-là, mais c'est peut-être pas inintéressant que ce soit une exposition de femmes et qu'on ait choisi, qui plus est, une femme assez dominatrice comme image de l'affiche. Si vous avez vu la Judith du Von Stuck, donc qui était un peu une façon de retourner un tout petit peu la question sadienne. Voilà.
Le rendez-vous. Extérieur.
Laurence Descartes et Ruben Augier, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manou Farine. Ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, eh bien, c'est le libraire Frédéric Lévesque, Manou.
Oui, libraire qui, après un long passage à la librairie à tout livre dans le 12e à Paris, dirige maintenant depuis une dizaine d'années à peu près la librairie La Musardine, toujours à Paris, une librairie consacrée à la littérature érotique et pornographique, que vous devez connaître, Ruben Augier, puisqu'elle porte notamment le nom des éditions La Musardine, qui vous a publié à deux reprises, je crois. Je l'ai rencontrée ce week-end pour un questionnaire resserré, bien sûr, à la littérature érotique.
Questionnaire érotique et pornographique, Frédéric Lévesque, Manou Farine.
Première lecture érotique.
C'est dans Mort à crédit, Céline. J'avais lu Le Voyage auparavant, et ça m'avait soufflé. Et donc, j'ai après lu tout ce que je pouvais trouver de Céline. Et dans Mort à crédit, c'était à l'époque en livre de poche. Il y avait un passage qui était extrêmement porno et qui non seulement était extrêmement porno, mais qui en plus était censuré. C'est-à-dire qu'il y a des pages blanches. Alors, quand on a 14 ans et qu'on lit des choses comme ça, on se dit « mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le blanc ?» Cette scène-là m'est restée profondément.
Le roman érotique qui a tout changé pour vous ?
C'est plutôt l'écrivain le plus fort que je connaisse, c'est Sparbeck. Mais d'abord, Sparbeck se revendique comme un auteur pornographique et il est d'une grande efficacité. C'est-à-dire que son écriture est parfaitement adéquate à son propos. Donc il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de métaphore. On est très très vite dans le vif du sujet, si j'ose dire. Il n'a pas du tout envie qu'on le traite d'écrivain érotique à cause de cette idée que l'érotisme, ça serait bien et la pornographie, ça ne serait pas bien. Et ça lui est insupportable. Puisqu'on le traite d'écrivain pornographique, il le revendique au fond. Moi, je lui vois là comme une espèce de pudeur à l'envers. Si vous voulez, c'est pas bataille. Il n'y a pas de transgression. La pornographie n'a pas besoin de transgression. Elle ne veut rien transgresser du tout. Elle est directe, immédiate. Elle a besoin que de montrer.
Le livre que vous aimez faire découvrir ?
Récemment, en 2012, il y a un livre qui nous est arrivé par les éditions Verdier d'une certaine Anne Serre, qui a écrit un bouquin formidable, magnifique, merveilleux, qui s'appelle « Petite table soit mise ». C'est une famille où tout le monde baise avec tout le monde, le père, la mère, les enfants, les amis, etc. Tout ça se passe très simplement, très chaudement, très amicalement. On est dans l'animalité, l'innocence. Et à un moment donné, la jeune fille, la narratrice, alors qu'elle est en train de faire l'amour avec quelqu'un, elle lève les yeux et elle voit un clocher. Et là, le livre bascule et on passe à autre chose, on passe à l'errance. Et elle déambule, elle se promène, elle grandit. C'est pas du tout un fait, ni un livre érotique, ni un livre pornographique. C'est une espèce de métaphore, un conte. Et je pense, moi, que c'est un livre très profondément chrétien.
L'auteur que vous êtes le seul à connaître ?
Je crois qu'on ne connaît pas assez, qu'on n'a pas lu assez Claudine Galéa pour Le Bel Échange. Donc une femme plus âgée qui a été quittée par un homme, qui a beaucoup souffert, veut rendre les femmes et cette jeune femme plus fortes en lui assénant la vérité. La vérité, c'est la violence, c'est la force. Et quand ce passage est fait, il y a eu un échange. Les deux sont libérés. L'une est plus forte et l'autre s'est libérée de sa violence.
Le livre que vous avez le plus vendu ?
Vraiment, c'est les livres d'Esparbeck. Lisez La Pharmacienne, c'est formidable. Si vous voulez lire Esparbeck comme écrivain, lisez plutôt Le Pornographe et ses modèles.
Le livre ou le roman que vous relisez le plus ?
Le livre érotique, on peut les relire. Alors, on les relit d'une main, bien sûr. Il y a plein de livres érotiques qui sont tout de même bien foutus, intéressants et qui demandent une relecture, bien sûr. Les 11 000 verges, par exemple, d'Apollinaire. Je pense aux Trois filles de leur mère, de Pierre-Louis, c'est un bijou. Je pense à Miller, par exemple, Opus Pistorum, c'est un bijou. Il y a plein de livres comme ça, tout à fait merveilleux.
Le personnage que vous auriez aimé être ou que vous auriez pu être ?
Un personnage de littérature érotique que j'aurais aimé être. Ce qu'il y a de bien avec la littérature pornographique, c'est qu'on n'est pas obligé d'y croire, quoi.
Frédéric Lévesque, merci.
Des réactions de votre part ?
Oui, je pense... Ce qui parle de lire d'une main, bon, évidemment, un livre, c'est un peu plus compliqué à faire que regarder un film. Là, les mains sont libres, c'est peut-être plus pratique. Mais je vois la littérature érotique ou pornographique comme un genre qu'on peut appeler émotionnel, un peu comme le comique ou le film d'horreur. C'est-à-dire que le critère de réussite n'est pas simplement la qualité littéraire, mais l'effet que ça produit. Si ça excite, on peut dire que c'est...
Que c'est un bon roman.
Un bon roman. De la même façon qu'un livre comique qui fait rire personne, personne ne dira que c'est vraiment un film comique, ou un film d'horreur qui ne fait peur à personne, on ne dira pas que c'est un film d'horreur. Le problème avec la pornographie et l'érotisme, c'est qu'on considère qu'essayer d'exciter quelqu'un, même s'il s'agit d'un adulte, il y a quelque chose qui est condamnable, alors que faire rire quelqu'un ou lui faire un peu peur dans un film, on n'a jamais considéré que c'était quelque chose d'horrible. Et je pense que la littérature érotique et pornographique, aux États-Unis, c'est très clair, elle a toujours été plus exposée à la censure, parce qu'on considérait que essayer de provoquer une excitation sexuelle sans s'abriter derrière les formes littéraires, il était préférable de ne pas le faire. C'est considéré comme une sorte d'infraction à la morale.
Laurence Descartes ?
Oui, ce que je trouve intéressant par rapport à la culture anglo-saxonne, une question que je me suis posée, une exposition comme ça serait impossible dans un musée américain. Et elle ne connaîtra vraisemblablement qu'une étape à Paris. En tout cas, pour l'instant, on verra. Mais c'est intéressant aussi de voir, même si le New York Times s'y est intéressé récemment, même s'il y a une grande curiosité de la part de nos confrères américains, je pense qu'un tel projet ne serait pas né d'un musée américain et ne connaîtra pas de destin américain.
Oui,
c'est absolument impossible.
La liberté d'expression, elle est entière lorsqu'il s'agit d'opinion politique. Il y a eu divers cas aux États-Unis de nazis qui défilaient dans des villes où vivaient de nombreux rescapés de la Shoah. Et on considérait que la liberté d'expression doit leur permettre de manifester. En revanche, avec des changements qui ont été assez timides finalement, la pornographie, l'obscénité a toujours été poursuivie. Mm-hmm. Et pourquoi ? C'est parce qu'on considérait que ce n'était pas des opinions qui étaient exprimées, mais que ça allait directement de l'image ou du texte au sexe. Il n'y avait pas l'intermédiaire cognitif qui permet de justifier.
Le rendez-vous.
Qui parle ici ?
Mais enfin, que fait Madeleine ?
Je te trouve bien soucieux depuis ta retraite.
Je me sens totalement inutile.
Vous voulez bien me guider ?
C'est moi qui ai tout déclenché.
Plateau Faire l'amour avec vous, Ruben Augier, philosophe, auteur déjà d'une vingtaine d'ouvrages qui ont progressivement posé le cadre de ce que vous avez appelé une éthique minimale, c'est-à-dire une morale à un principe qui tiendrait en une ligne, c'est pratique, ne pas nuire aux autres, rien de plus. Avant de parler de l'essai, à quel moment de vos travaux vous en êtes venu à ce point irréductible ?
Eh bien là, nous avons un lien avec tout ce dont nous venons de parler. C'est dans le livre « Penser la pornographie » qui a reçu le prix SAD d'ailleurs, que j'ai développé cette idée qui était un peu rustique, disons, au début. Et puis, elle s'est affinée. Dans un autre livre, L'éthique aujourd'hui, j'ai essayé de la formaliser, la théoriser comme on le fait en philosophie. Et donc, d'expliquer pourquoi je pensais que ce principe suffisait à définir une éthique. Pourquoi... Et puis, maintenant, je suis un peu... j'essaye de mieux comprendre la différence entre ce que j'appelle une position minimaliste qui n'a que ce principe et une position maximaliste dans laquelle le problème n'est pas simplement de ne pas nuire aux autres, mais aussi de leur faire du bien, par exemple, ou de les aider, de respecter des valeurs, etc. Puis j'essaye de mettre en balance les deux. Alors, le plus important de l'éthique minimale, c'est que tout ce qui concerne notre rapport à nous-mêmes échappe, à mon avis, au jugement moral. Le suicide, la consommation de drogue, etc. Tout ce qui ne cause pas de tort aux autres. C'est donc les implications de ce principe qui sont intéressantes philosophiquement et éthiquement. Et pas simplement le principe, une fois qu'on l'a posé, on se dit on a entendu ça depuis toujours, il n'y a rien de neuf. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on peut en tirer, non seulement du point de vue moral, en disant nous n'avons pas le devoir moral envers nous-mêmes, contrairement à ce que Kant, par exemple, disait. Donc ça, c'est un point central. Et les implications pratiques, c'est-à-dire essayer de trouver un socle pour la justification de certaines idées libertaires qui semblent toujours sans aucun fondement politique et moral. Alors, j'ai essayé, si vous voulez, de montrer qu'elles pouvaient s'appuyer sur des principes éthiques solides.
Manu Farine.
Alors, c'est ce principe qui sert à nouveau de cadre à votre dernier essai, Philosopher ou faire l'amour, paru chez Grasset. Un titre emprunté aux frères Larrieux et à leur film Peindre ou faire l'amour. On entendait un extrait en ouverture de plateau. Sabine Azéma y laisse d'ailleurs tomber la peinture, enfin provisoirement peut-être, pour l'amour. Qu'est-ce que cet écho dit de ce que vous mettez en jeu dans cet essai ?
Le film de Larrieux.
D'emprunter votre titre au titre des frères Larrieux.
En fait, on peut dire que c'est simplement une... il y a une sorte de jeu, certainement. Le film des frères Larrieux, et le titre plus exactement du film, a une sonorité, un contrat, si vous voulez, une opposition qui m'a paru intéressante, mais je n'ai pas exploré le contenu du film avec ces rapports échangistes, etc., qui sont mis en scène. Il faut pas lui accorder trop d'importance dans le reste du texte. Mais comme souvent, un titre, c'est ce qui fait démarrer à la fois l'envie d'écrire le livre. Et puis aussi, on y repense de temps en temps parce qu'on dit, bon sang, il va bien falloir que je justifie ce titre.
Alors la première chose nous qu'on voit, c'est à la fois le titre, mais aussi la couverture. Et là, elle n'est pas anecdotique. En couverture de l'ouvrage, vous avez choisi une œuvre de Paul McCarthy, qui est exposée actuellement à la Monnaie de Paris, « Bear and Rabbit on a Rock », de 1992, pour aller très vite, c'est l'accouplement très joyeux entre deux énormes peluches, un lapin blanc et un ours brun. McCarthy, dont on a dégonflé le plug anal avant la FIAC. Un commentaire sur ce choix ?
Oui, alors je suis étonné de la notoriété soudaine qu'a obtenu Paul McCarthy. C'est un artiste dont j'ai toujours beaucoup aimé l'œuvre, même plus que ça. Il n'y a eu aucune résistance. D'ailleurs, la maison d'édition a été extrêmement m'a soutenu pour ça. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour l'avoir, mais je suppose que maintenant, ce serait plus difficile.
Manu.
Alors vous présentez, Ruben Ogier, l'ouvrage comme un panorama général des différentes formes d'amour, sexuelle, romantique, morale, céleste, que vous abordez de façon critique, on va y revenir bien sûr, en vous appuyant sur ce que vous appelez les 6 idées de base de l'amour. L'amour est plus important que tout, l'être aimé est irremplaçable, on peut aimer sans raison, l'amour est au-delà du bien et du mal, on ne peut pas aimer sur commande, l'amour qui ne dure pas n'est pas un amour véritable. 6 clichés donc que vous désossez méthodiquement, progressivement. Quel problème moral et logique, puisque tel est l'enjeu du livre, poserait par exemple ce 5e cliché, on ne peut pas aimer sur commande ?
J'ai essayé dans le 5e et puis dans le 6e, l'amour qui ne dure pas n'est pas un véritable amour, de mettre en relation avec d'autres concepts. Le concept de croyance en ce qui concerne on ne peut pas aimer sur commande, c'est le concept de bonheur en ce qui concerne ce cliché. Enfin, j'aurais tendance à dire qu'il ne s'agit pas vraiment de clichés. C'est vrai que c'est un terme que j'utilise, mais des intuitions ordinaire, c'est-à-dire ce que les gens peuvent penser en général, et que j'ai recomposé à partir de la chanson populaire, entre autres, à partir d'ouvrages philosophiques aussi, qui sont en écho les uns des autres, finalement. Et dans les assez nombreuses discussions que j'ai déjà eues sur le livre, personne ne m'a dit jusqu'à présent, j'en ai un autre cliché. Alors si vous en avez un, dites-le moi, peut-être ça me permettra de faire une annexe au livre la prochaine fois. On a l'impression que ça recouvre quand même suffisamment le champ de ce que les gens ont tendance à penser à propos de l'amour. Donc en ce qui concerne ces intuitions que l'amour ne se commande pas, j'ai comparé avec le problème des croyances, comme est-ce que si on vous donne 10 000 euros, vous allez croire en Dieu, par exemple. Vous allez dire, écoutez, je ne peux pas croire sur commande. Vous pouvez même m'en donner 100 000, je ne peux pas. Je peux faire semblant de croire en Dieu. Je peux essayer de me mettre dans la position telle qu'un jour, je finirai par croire, et en suivant les conseils de Pascal, par exemple. Mais c'est vrai quelque chose qui peut me venir d'un coup. Maintenant, comment est-ce que donc ça a l'air convaincant, voyez-vous. Mais après, on se dit, mais est-ce que c'est si vrai? Est-ce qu'il y a une si grande part de spontanéité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est si incontrôlé dans l'amour? Et quand on réfléchit même à des séquences comme celle d'un coup de foudre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'aspects volontaires, d'aspects décidés, que d'aspects dans lesquels on est pris. Par exemple, on va au rendez-vous, on s'habille d'une certaine façon, on essaie de séduire d'une certaine façon. Tout ça fait partie de ces aspects volontaires, de l'involontaire.
Comment vous expliquez qu'en ce moment, Ruben Ogier, il y ait plein de philosophes qui s'intéressent justement à l'amour, des philosophies de l'amour, Alain Badiou, Alain Finkielkraut, en passant par André Comte-Sponville? Comment vous expliquez cette inflation de textes sur l'amour venant de philosophes?
J'ai tenté de proposer une hypothèse, mais ce n'est vraiment qu'une hypothèse.
Oui, que ça exprimerait une pensée conservatrice, puritaine et antisexuelle.
Oui, alors la première étape, avant d'aller au...
Avant d'arriver à la fin.
C'est de voir que le discours sur la société dans laquelle nous vivons est assez pessimiste, il faut le reconnaître. Et il l'a été avant même peut-être les différents développements et économiques récents. C'est l'idée que nous vivons dans une société individualiste, dans laquelle il n'y a plus de lien entre les gens, dans laquelle les gens poursuivent leurs désirs, des désirs un peu idiots, pas réfléchis, etc. Et donc, il faut apporter un remède à ça en remettant quelque chose, en remettant une sorte d'âme dans notre rapport aux autres. Et mon impression, en gros, c'est que les philosophes antimodernes que je cite pensent que l'amour est vraiment le remède possible à cet individualisme, à cette consommateur, zappeur, incapable de se concentrer, affairé à la réalisation de ses propres désirs et incapable désormais de penser dans le collectif. Donc ça serait, si vous voulez, le collectif de base, la première étape pour reconstituer une société qui serait plus décente que celle dans laquelle nous vivons. Voilà, c'est l'hypothèse que je...
Manou.
Bien que vous annonciez, Ruben Ogier, vous en tenir à des questions d'ordre moral et logique et non pas politique, vous finissez malgré tout par y arriver. Je vous cite à la fin, page 235, « En adoptant cette vision non essentialiste, rien ne nous interdit de considérer comme des conceptions de l'amour parfaitement légitimes le dépassement complet du couple dans le polyamour, la remise en cause de la domination de l'amour hétérosexuel par la quête bisexuelle, le no-sex ou le célibat, la généralisation des contrats sexuels, relations sadomasochistes, prostitution, etc. » Je ne vais pas jusqu'au bout. Mettre sur le même plan, comme vous le faites, ce que vous appelez les contrats sexuels, c'est-à-dire par exemple prostitution et sadomasochisme, est-ce que ce n'est pas évacuer la question des rapports de force économiques?
On pourrait le dire pour tout le reste.
Absolument, on pourrait le dire pour tout le reste.
Oui. Je ne pense pas que ce soit incompatible. Une réflexion philosophique sur l'idée que d'échanger des services sexuels contre de l'argent, est-ce que c'est digne moralement, n'a peut-être pas toujours grand-chose à voir avec la question de la domination, la question de la marchandisation, comme on le dit. Prenez par exemple Kant. Pour lui, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est forcément le traiter comme un objet, le traiter comme un moyen simplement comme un moyen et pas en même temps comme une fin. Quand quelqu'un s'engage dans une relation sexuelle, il voit l'autre comme un objet pour satisfaire son appétit, un objet qu'il jette ensuite une fois que son appétit est satisfait. Et Kant utilise d'ailleurs des métaphores qui montrent qu'il s'y connaît mieux en cuisine qu'en sexe, ce qu'il dit est que, en fait, quand on a une relation sexuelle, on jette la personne comme un citron qu'on a trop pressé, ou bien on la voit quand elle apparaît comme un rôti de porc qu'on a envie de déguster. Voilà le genre d'image. Donc c'est l'objectivation, la réification de la personne qui est, si vous voulez, le crime moral qui est commis dans la relation sexuelle. Mais ça n'a rien à voir avec le rapport de domination, on peut le trouver, ou ça n'a rien à voir avec, ça peut être réciproque par exemple, ça peut être celle d'une femme sur un homme, de deux hommes entre eux, etc.
Sûr,
donc je ne pense pas que je l'évacue, mais vraiment pas du tout. C'est une notion qui est très très importante. Lorsqu'on parle de contrat, un contrat peut être annulé pour différentes raisons, il peut être vicié pour différentes raisons, parce qu'il y a eu mensonge, il y a eu chantage, il y a eu usage de la force, mais il y a aussi abus de faiblesse, abus de pouvoir. Donc ça sera un contrat vicié pour moi, un contrat de domination.
Eh bien, on finit sur le son que vous avez choisi, Revenons au Géant. On ne va même pas le commenter. Le son que vous avez choisi, c'était ça.
La situation mérite attention, mon enfant.
Eh oui, c'était quoi cette musique?
Ça, c'est la chanson de la
fée dans.
Non, c'est les conseils de la.
De la fée Lila dans. Podane de Jacques Demy. Merci à nos invités. Laurence Descartes, l'exposition Sade, Attaquer le soleil, c'est au Musée d'Orsay à Paris jusqu'au 25 janvier. Je rappelle que le catalogue de l'exposition a paru aux éditions Musée d'Orsay Gallimard et puis Ruben Augien, Philosopher ou faire l'amour, c'était aux éditions Grasset. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Beaucoup de commentateurs sont prisonniers de ce qu'ils croient comme l'éternité d'une vie politique française, alors que vous êtes prisonniers en fait de la Ve République, qui en clair devient une catastrophe car elle épuise, elle dévitalise.
On le coupera demain. Demain, Guerre et Médias avec le journaliste Edoui Plenel que vous venez d'entendre et le documentariste Laurent Bécu-Renard. Des annonces, Hippolyte.
C'était court. Le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manou Farine, Adrien Azéli et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfez, à la prise de son Jean-Guilain Meige, Clément Daté et à la réalisation Thomas Beau.